Bonjour Michel.
Bonjour Hélène.
Ça va bien?
Ça va bien, vous?
Oui, ça va bien. Michel...
Ouais, je pense que vous vouliez dire le 21 décembre.
Ah, qu'est-ce que j'ai dit?
Novembre.
Ah ben non, 21 novembre, c'est derrière nous. Merci de me corriger, très cher. Alors, vous êtes professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Et puis aujourd'hui, vous avez préparé un pot-pourri de nouvelles économiques?
Oui, un petit pot-pourri en rafale.
On commence donc avec l'inflation ralentie aux États-Unis.
Oui, on vient d'annoncer une légère baisse de l'inflation en novembre, 3,1% sur un an versus 3,2% en octobre. C'est essentiellement dû à une baisse du prix de l'énergie. Là, les prix de l'énergie ont augmenté de 1,2% depuis un an aux États-Unis. Si on exclut l'alimentation puis l'énergie, là, comme les deux composantes volatiles de l'indice de l'inflation, l'inflation sera à 4% stable. Donc, c'est une relativement bonne nouvelle parce que au moins l'inflation repart pas en fou. On semble assez stable ou légèrement à la baisse. Donc ça laisse présager là, que la hausse des taux d'intérêt, c'est derrière nous.
Bon, alors c'est une bonne nouvelle en cette fin de décembre, en cette fin d'année 2023.
C'est ça. Donc on se dirige, on va espérer qu'en 2024, on va avoir des baisses de taux.
Bon, alors je sais pas si ça c'est une bonne nouvelle. Parlant d'inflation, les épiciers font de l'argent.
Ben oui, les manchettes aujourd'hui, là, on annonçait des bénéfices records de près de 6 milliards pour les épiciers canadiens en 2023, une augmentation de 8% sur un an. Les marges seraient à 3% des revenus totaux depuis la mi-2021, alors qu'en 2015 et 2019, la moyenne était à la moitié de ça, autour de 1,5%. Donc, c'est beaucoup d'argent, mais il faut toujours faire attention en période d'inflation quand on donne des chiffres en dollars, là, même si ça, c'est de grosses augmentations. On dit qu'ils ont augmenté de 8% sur un an, mais si l'inflation a été de 4 ou 5%, l'augmentation réelle est un peu plus faible. C'est pas aussi spectaculaire que 8%, mais il y en a eu quand même une. Puis là, le fédéral, il met de la pression sur les épiciers là, pour qu'ils adoptent un fameux code de conduite là, qu'ils ont mis pour limiter la hausse des prix. C'est un peu nébuleux, ce code de conduite-là, mais on essaie de réguler un peu les relations entre les épiciers puis les fournisseurs, là, qui semblent avoir parfois des parties de bras de fer. Bon, les fournisseurs fournissent les épiciers, mais des fois, les livraisons sont pas toujours comme on le voudrait. Il y a des coûts supplémentaires. Puis là, qui supporte ces coûts-là? Puis je pense que les grandes chaînes d'alimentation ont un peu de pouvoir de marché là-dedans, donc ils essayent de tordre des bras. En tout cas, c'est pas... ça joue du coup.
Ça joue dur, puis on oublie le consommateur là-dedans.
Mais c'est ça. Mais en même temps, certains épiciers ont des doutes sur le code. C'est toujours un peu délicat quand on impose des codes de conduite ou des façons de faire. Là, pas que comment les gens se comportent, c'est toujours bien, mais des fois, il y a des conséquences inattendues d'imposer des codes comme ça. Là. Alors, il faut regarder comme il faut. Comment ça va se passer. Un jour, je pourrais vous conter, peut-être qu'on n'a pas le temps, mais l'histoire des cobras en Inde. Là,
ben allez-y, on a du temps.
Ah oui, bon.
À moins que l'histoire dure une heure.
Non, mais c'est ça, on appelait ça, en économie, on appelle ça l'effet cobra. Alors, c'était au 19e siècle, alors que les Anglais, les Britanniques occupaient l'Angleterre, et puis c'était à Delhi, il y avait une infestation de cobras. Alors, le gouverneur anglais a eu la bonne idée de dire, on va donner des incitatifs pour que les gens chassent le cobra. Puis là, il avait décidé de donner un certain montant d'argent pour chaque cobra rapporté à l'hôtel de ville ou au bureau là pour vider la ville des cobras. Alors, bon, ça semble une bonne idée a priori. Qu'est-ce que vous pensez que c'est passé? Mais il y a des gens qui ont parti des fermes d'élevage de cobras.
Ah oui, pour avoir encore plus d'argent.
C'est ça. Et puis là, quand le gouverneur s'est rendu compte que ça ne marchait plus, il a arrêté la subvention. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les fermes de cobra? Ben, ils ont lâché serpents, puis il y en avait deux fois plus après qu'avant.
Ah, je pensais que vous alliez me dire qu'il y avait plein de chasseurs de cobras qui avaient trouvé la mort, étant donné qu'un cobra, c'est quand même un serpent.
Ah, ben là, ça, l'histoire ne le dit pas, bon. Mais c'est plus que... Parfois, quand on joue avec les prix, on donne des incitatifs, on pense du côté de la demande. OK, on donne un prix pour le cobra, parfait, mais là, il y a le côté de l'offre, on peut en produire des cobras. On va en élever, puis tu vas payer pour.
Ben, Noël, on ne mangera pas de cobra, on va manger de la dinde, en espérant qu'elle ne soit pas trop hors de prix. Et on termine, exact. Michel, avec la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, qui a dévoilé en point de presse hier sa stratégie d'habitation pour la ville qui diffère de celle de Montréal.
Oui, je pense que la sienne est meilleure. Est-ce que c'est la meilleure? On verra, là, mais moi, j'ai l'impression que c'est la meilleure. Ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle veut confier les logements sociaux à des organisations à but non lucratif, des OBNL. Donc, la ville achèterait des logements et revendrait l'édifice à un logement à une OBNL avec l'espoir que si elle est moins motivée par les profits, elle puisse conserver des loyers à des niveaux raisonnables ou abordables. Donc, la ville a des objectifs ambitieux, vise 20% des logements qui seraient des logements sociaux. Actuellement, il y en a 4,2%. Donc, ça représente une augmentation de 17 500 logements, ce qui est énorme là, en période où la construction avance lentement, etc. Pour comparer avec Montréal, c'était pas une, je pense pas, c'était, moi, j'avais pas l'impression que c'était une bonne politique, même si le but avoué est louable. Donc, Montréal avait une politique de ce qu'on appelle de 20-20-20. Alors, à chaque fois qu'il y avait un nouveau projet immobilier de plus de 5 unités, il devait avoir 20 % des logements sociaux, 20 % de logements abordables, puis 20 % de logements familiaux dans tout nouveau projet. Le problème avec ça, c'est que si on va un peu contre ce que le marché voudrait offrir, ben c'est donc ça va coûter plus cher aux promoteurs. Donc, c'était comme imposer une taxe cachée aux promoteurs ou aux nouveaux acheteurs, parce que là, les promoteurs devaient avoir un certain nombre de logements pour une clientèle différente que celle qu'ils visaient. Donc, encore une fois, c'est un but louable, mais là, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait porter le fardeau de façon démesurée, d'après moi, sur les promoteurs puis les nouveaux acheteurs dans ces projets-là. Donc, je pense que c'est important d'aider les gens dans le besoin avec leur logement, mais je suis pas sûr que la politique de Montréal, c'est la meilleure. Puis on pourra regarder ce qui se passe à Longueuil, mais j'ai l'impression que l'approche est meilleure.
Merci beaucoup, Michel. Longueuil. Alors, on salue la mairesse Catherine Fournier.
Ben oui, qui d'ailleurs a étudié en économie chez nous. Elle a fait un programme bidisciplinaire économie et sciences politiques.
Ah, donc, oui.
Elle est passée par notre département. Je n'ai pas eu le plaisir de lui enseigner, mais je sais qu'elle est passée par notre département.
Ah, bon. Alors, ben merci pour cette information.
Oui. Et puis... J'espère que ce n'est pas confidentiel. Ça ne doit pas.
Ben, j'imagine que non. Là,
si on... Ça doit être sur son LinkedIn, il faudrait
oui,
aller
c'est
voir,
ça, là. Ça doit. OK, alors merci beaucoup pour tout ça et puis on va se retrouver la semaine prochaine.
Oui, à la semaine prochaine.
À bientôt.
Au revoir.